Xavier de Maistre, la jeune Sibérienne. Le courage d'une jeune fille qui, vers la fin du règne de Paul Ier, partit à pied de la Sibérie pour venir à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père, fit assez de bruit dans le temps pour engager un auteur célèbre à faire une héroïne de roman de cette intéressante voyageuse. Mais les personnes qui l'ont connue paraissent regretter qu'on ait prêté des aventures d'amour et des idées romanesques à une jeune et noble vierge qui n'eut jamais d'autre passion que l'amour filial le plus pur et qui, sans appui, sans conseil, trouva dans son cœur la pensée de l'action la plus généreuse et la force de l'exécuter. Si le récit de ces aventures n'offre point cet intérêt de surprise que peut inspirer un romancier pour des personnages imaginaires, on ne lira peut-être pas sans quelque plaisir la simple histoire de sa vie, assez intéressante par elle-même, sans autre ornement que la vérité. Prakovilopulov était son nom. Son père, d'une famille noble d'Ukraine, naquit en Hongrie, où le hasard des circonstances avait conduit ses parents, et servit quelque temps dans les hussards noirs. Mais il ne tarde pas à les quitter pour venir en Russie, où il se maria. Il reprit ensuite, dans sa patrie, la carrière des armes, servit longtemps dans les troupes russes et fit plusieurs campagnes contre les Turcs. Il s'était trouvé aux assauts d'Ismaïl Dolchakov et avait mérité par sa conduite l'estime de son corps. On ignore la cause de son exil en Sibérie, son procès ainsi que la révision qu'on fit dans la suite ayant été tenu secret. Quelques personnes ont cependant prétendu qu'il avait été mis en jugement par la malveillance d'un chef pour cause d'insubordination. Quoi qu'il en soit, à l'époque du voyage de sa fille, il était depuis 14 ans en Sibérie, relégué à Ishim, village près des frontières du gouvernement de Tobolsk, vivant avec sa famille de la modique rétribution de 10 kopecks par jour, assignée aux prisonniers qui ne sont pas condamnés aux travaux publics. La jeune Praskovi contribuait par son travail à la subsistance de ses parents en aidant les blanchisseuses du village ou les moissonneurs et en prenant part à tous les ouvrages de la campagne dont ses forces lui permettaient de s'occuper. Elle rapportait du blé, des œufs ou quelques légumes en paiement. Arrivée en Sibérie dans son enfance et n'ayant aucune idée d'un meilleur sort, elle se livrait avec joie à ses pénibles travaux, qu'elle avait bien de la peine à supporter. Ses mains délicates semblaient avoir été formées pour d'autres occupations. Sa mère, tout entière aux soins du pauvre ménage, semblait prendre en patience sa déplorable situation. Mais son père, accoutumé dès sa première jeunesse à la vie active des armées, ne pouvait se résigner à son sort et s'abandonnait souvent à des accès de désespoir que l'excès même du malheur ne saurait justifier. Quoiqu'il évitât de laisser voir à Praskovi les chagrins qui le dévoraient, elle avait été plus d'une fois témoin de ses larmes à travers les fentes d'une cloison qui séparait son réduit de la chambre de ses parents, et elle commençait depuis quelque temps à réfléchir sur leur cruelle destinée. Lopulov avait adressé depuis plusieurs mois une supplique au gouverneur de la Sibérie qui n'avait jamais répondu à ses demandes précédentes. Un officier passant par Ishim pour des affaires de service s'était chargé de la dépêche et lui avait promis d'appuyer ses réclamations auprès du gouverneur. Le malheureux exilé en avait conçu quelque espoir, mais on ne lui fit pas plus de réponses qu'auparavant. Chaque voyageur, chaque courrier venant de Tobolsk, évidemment bien rare, ajoutait le tourment de l'espérance déçue aux maux dont il était accablé. Dans un de ces tristes moments, la jeune fille, revenant de la moisson, trouva sa mère baignée de larmes et fut effrayée de la pâleur et des sombres regards de son père qui se livrait à tout le délire de la douleur. « Voilà, s'écria-t-il lorsqu'il la vit paraître, le plus cruel de tous mes malheurs. Voilà l'enfant que Dieu m'a donné dans sa colère, afin que je souffre doublement de ses maux et des miens, afin que je la voie dépérir lentement sous mes yeux, épuisée par de serviles travaux, et que le titre de père, qui fait le bonheur de tous les hommes, soit pour moi seul le dernier terme de la malédiction du ciel. » Praskovie, épouvantée, se jeta dans ses bras. La mère et la fille parvinrent à le tranquilliser en mêlant leurs larmes aux siennes, mais cette scène fit la plus grande impression sur l'esprit de la jeune fille. Pour la première fois, ses parents avaient ouvertement parlé devant elle de leur situation désespérée. Pour la première fois, elle put se former une idée de tout le malheur de sa famille. Ce fut à cette époque et dans la 15e année de son âge que la première idée d'aller à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père lui vint à l'esprit. Elle racontait elle-même qu'un jour, cette heureuse pensée se présenta à elle comme un éclair au moment où elle achevait ses prières et lui causa un trouble inexprimable. Elle a toujours été persuadée que ce fut une inspiration de la Providence et cette ferme confiance la soutint dans la suite au milieu des circonstances les plus décourageantes. Jusqu'alors, l'espérance de la liberté n'était point entrée dans son cœur. Ce sentiment nouveau, pour elle, la remplit d'une grande joie. Elle se remit aussitôt en prière. Mais ses idées étaient si confuses que ne sachant elle-même ce qu'elle voulait demander à Dieu, elle le pria seulement de ne pas la priver du bonheur qu'elle éprouvait et qu'elle ne savait définir. Bientôt, cependant, le projet d'aller à Saint-Pétersbourg se jeter aux pieds de l'empereur et lui demander la grâce de son père se développa dans son esprit et l'occupa désormais uniquement. Elle avait choisi, dans la lisière d'un bois de bouleau qui se trouvait près de la maison, une place favorite où elle se retirait souvent pour faire ses prières. Elle fut plus exacte encore à s'y rendre dans la suite. Là, tout entière à son projet, elle venait prier Dieu, avec toute la ferveur de sa jeune âme, de favoriser son voyage et de lui donner la force et les moyens de l'exécuter. S'abandonnant à cette idée, elle s'oubliait souvent dans le bois, au point de négliger ses occupations ordinaires, ce qui lui attirait des reproches de ses parents. Elle fut longtemps avant d'oser s'ouvrir à eux au sujet de l'entreprise qu'elle méditait. Son courage l'abandonnait chaque fois qu'elle approchait de son père pour commencer cette explication hasardeuse dont elle prévoyait confusément le peu de succès. Cependant, lorsqu'elle crut avoir suffisamment mûri son projet, elle détermina le jour où elle parlerait et se proposa fermement de vaincre sa timidité. À l'époque fixée, Praskovie se rendit de bonne heure au bois pour demander à Dieu le courage de s'exprimer et l'éloquence nécessaire pour persuader ses parents. Elle revint ensuite à la maison, résolue de parler au premier des deux qu'elle rencontrerait. Elle désirait que le hasard lui fît trouver sa mère, dont elle espérait plus de condescendance. Mais en approchant de la maison, elle vit son père assis sur un banc près de la porte et fumant une pipe. Elle vint à lui, courageusement, commença l'explication de son projet et demanda, avec toute la chaleur dont elle fut capable, la permission de partir pour Saint-Pétersbourg. Lorsqu'elle eut terminé son discours, son père, qui l'avait écouté sans l'interrompre et au plus grand sérieux, la prit par la main Et rentrant avec elle dans la chambre où la mère s'apprêtait le dîner, « Ma femme, s'écria-t-il, bonne nouvelle, nous avons trouvé un puissant protecteur. Voilà notre fille qui va partir sur l'heure pour Saint-Pétersbourg et qui veut bien se charger de parler elle-même à l'empereur. » Lopoulov raconta plaisamment ensuite tout ce que lui avait dit Prakovy. Elle ferait mieux, répondit la mère, d'être à son ouvrage que de venir vous conter ses balivernes. La jeune fille s'était armée d'avance contre la colère de ses parents, mais elle n'eut point de force contre le persiflage qui semblait anéantir toutes ses espérances. Elle se mit à pleurer amèrement. Son père, qu'un instant de gaieté avait fait sortir de son caractère, reprit bientôt toute sa sévérité. Tandis qu'il la grondait au sujet de ses larmes, sa mère attendrie l'embrassait en riant. « Allons, lui dit-elle en lui présentant un linge, commence par nettoyer la table pour le dîner. Tu pourras ensuite partir pour Saint-Pétersbourg. À ta commodité. » Cette scène était plus faite pour dégoûter Praskovy de ses projets que des reproches ou de mauvais traitements. Cependant, l'humiliation qu'elle éprouvait de se voir traitée comme un enfant se dissipa bientôt et ne la découragea point. La glace était rompue. Elle revint à la charge à plusieurs reprises et ses prières furent bientôt si fréquentes et si importunes que son père, perdant patience, la gronda sérieusement et lui défendit avec sévérité de lui parler là-dessus davantage. Sa mère, avec plus de douceur, tâcha de lui faire comprendre qu'elle était trop jeune encore pour songer à une entreprise si difficile. Depuis lors, 3 ans s'écoulèrent sans que Praskovy osât renouveler ses instances. Une longue maladie de sa mère la contraignit de renvoyer son projet à des temps plus favorables. Cependant, il ne se passa pas un seul jour sans qu'elle joignît à ses prières ordinaires celle d'obtenir de son père la permission de partir, bien persuadée que Dieu l'exaucerait un jour. Cet esprit religieux, cette foi vive dans une si jeune personne, doivent paraître d'autant plus extraordinaires qu'elle ne les devait point à l'éducation. Sans être irréligieux, son père s'occupait peu de prières, et quoique sa mère fût plus exacte à cet égard, elle manquait en général d'instruction, et Praskovy ne devait qu'à elle-même les sentiments qui l'animaient. Pendant ces 3 dernières années, sa raison s'était formée. Déjà la jeune fille avait acquis plus de poids dans les conseils de la famille. Elle put, en conséquence, proposer et discuter son projet que ses parents ne regardaient plus comme un enfantillage, mais qu'ils combattirent avec d'autant plus de force qu'elle leur était devenue plus nécessaire. Les empêchements qu'ils mettaient à son départ étaient de nature à faire impression sur son cœur. Ce n'était plus par des plaisanteries ou par des menaces qui tâchait de la dissuader, mais par des caresses et par des larmes. « Nous sommes déjà vieux, lui disait-il, nous n'avons plus ni fortune ni amis en Russie. Aurais-tu le courage d'abandonner dans ce désert des parents dont tu es l'unique consolation, et cela pour entreprendre seul un voyage périlleux qui peut te conduire à ta perte et leur coûter la vie ?» au lieu de leur procurer la liberté. À ces raisons, Praskovy ne répondait que par des larmes. Mais sa volonté n'était point ébranlée, et chaque jour l'affermissait dans sa résolution. Il se présentait une difficulté d'une autre nature et plus réelle encore que l'opposition de son père. Elle ne pouvait partir qu'avec un passeport, sans lequel il n'eût été pas même possible de s'éloigner du village. D'autre part, il n'était guère probable que le gouverneur de Tobolsk, qui n'avait jamais répondu à leurs lettres, consentit à leur accorder cette faveur. Praskovy fut donc forcé de remettre son départ à un autre temps, et toutes ses idées se portèrent sur les moyens d'obtenir un passeport. Il y avait alors dans le village un prisonnier nommé Neller, né en Russie et fils d'un tailleur allemand. Cet homme avait été pendant quelque temps domestique d'un étudiant à l'université de Moscou, et il avait tiré de cette circonstance l'avantage de passer pour un esprit fort à la Ichim. Neller s'imaginait être un incrédule. Cette espèce de folie, jointe au métier plus utile de tailleur qu'il possédait, l'avait fait connaître des habitants et des prisonniers, dont les uns lui faisaient raccommoder leurs habits et dont les autres s'amusaient de ses impertinences. Au nombre de ces derniers était Lopoulov, chez lequel il venait quelquefois. Neller, connaissant l'esprit religieux de la jeune personne, la persiflait au sujet de sa dévotion et l'appelait Sainte Praskovy. Celle-ci, le croyant plus habile qu'il n'était, projetait de s'adresser à lui pour en obtenir la supplique qu'elle voulait adresser au gouverneur, dans l'espoir que son père, n'ayant plus qu'à la signer, s'y déciderait plus facilement. Elle venait un jour d'achever son blanchissage à la rivière et se disposait à retourner au logis. Avant de partir, elle fit, à son ordinaire, plusieurs signes de croix et se chargea péniblement de son linge mouillé. Neller, qui passait par hasard, la vit et se moqua d'elle. « Si vous aviez, lui dit-il, fait quelques-unes de ces 6 magrées de plus, vous auriez opéré un miracle et votre linge serait allé tout seul à la maison. Donnez, ajouta-t-il en s'emparant de force du fardeau, je vous ferai voir que les incrédules que vous haïssez si fort sont aussi de bonnes gens. » Il prit en effet la corbeille et la porta jusqu'au village. Chemin faisant, Praskovy, qui n'avait qu'un désir, celui d'obtenir un passeport, lui parla de la supplique et du service important qu'elle attendait de lui. Malheureusement, le philosophe ne savait pas écrire. Il avoua que, depuis l'instant où il s'était voué à l'état de tailleur, il avait totalement négligé la littérature. Mais il lui indiqua dans le village un homme qui pourrait remplir son attente. Praskovy revint toute joyeuse, se proposant de mettre à profit ce conseil dès le lendemain. En rentrant chez son père, où se trouvaient quelques personnes, Neller se vanta hautement du service qu'il avait rendu à Sainte Praskovy, en lui épargnant la peine de faire un miracle, et fit d'autres mauvaises plaisanteries de ce genre. Mais il fut bientôt déconcerté par la réponse de la jeune fille. « Mais comment pourrais-je, lui dit-elle, ne pas mettre toute ma confiance dans la bonté de Dieu? Je ne l'ai prié qu'un instant au bord de la rivière, et si mon linge n'est pas venu seul, il est du moins venu sans moi, et porté par un incrédule. Ainsi, le miracle a eu lieu, et je n'en demande pas d'autre à la Providence. » À cette réponse, toute la société se mit à rire aux dépens du tailleur, qui se retira très piqué de l'aventure. On verra dans la suite plusieurs exemples de cette aimable présence d'esprit qui n'abandonna jamais la jeune fille dans les circonstances les plus embarrassantes. Le lendemain, elle s'empressa de consulter l'homme qu'on lui avait indiqué. Elle apprit de lui que la supplique devait être signée par elle-même. L'écrivain se chargea de la dresser dans les formes requises, et lorsqu'elle fut achevée, Lopoulov, après quelques résistances, consentit à ce qu'elle fût expédiée et profita de l'occasion pour y joindre une nouvelle lettre relative à ses affaires personnelles. Dès ce moment, les inquiétudes de la jeune personne disparurent, sa santé se raffermit, et ses parents furent charmés de lui voir reprendre sa gaieté naturelle. Cet heureux changement n'avait pas d'autre cause que la certitude où elle était d'obtenir son passeport et sa confiance sans bornes dans la protection de Dieu. Elle allait souvent se promener sur le chemin de Tobolsk dans l'espérance de voir arriver quelques courriers. Elle passait devant la station de la poste aux chevaux pour parler au vieil invalide qui en avait la direction et qui distribuait le peu de lettres adressées à Ichim. Mais depuis longtemps, elle n'osait lui en demander parce qu'il lui avait parlé avec brusquerie et s'était moqué de son projet de voyage qu'il connaissait. Six mois s'étaient presque écoulés depuis le départ de la supplique, lorsqu'on vint avertir la famille qu'un courrier était à la poste avec des lettres pour quelques personnes. Prakovi courut aussitôt et fut suivi de ses parents. Lorsque Lopoulov se nomma, le courrier lui remit un paquet cacheté contenant un passeport pour sa fille et prit un reçu de lui. Ce fut un moment de joie pour la famille. Dans l'abandon total où ils étaient depuis tant d'années, l'envoi de ce passeport leur parut une espèce de faveur. Cependant, il n'y avait dans le paquet aucune réponse du gouverneur aux demandes personnelles de Lopoulov. Pour sa fille, elle était libre et l'on ne pouvait, sans la plus grande injustice, la retenir en Sibérie contre sa volonté. Le silence absolu que l'on gardait avec son père était plutôt une confirmation de sa disgrâce qu'une faveur. Cette triste réflexion dissipa bientôt l'impression de plaisir que lui avait fait éprouver la condescendance du gouverneur. Lopoulov s'empara du passeport et déclara, dans le premier moment d'humeur, qu'il n'avait consenti à le demander que dans la certitude qu'on le lui refuserait et pour se délivrer des persécutions de sa fille. Praskovi suivit ses parents à la maison sans rien demander, mais rempli d'espoir et remerciant Dieu le long du chemin d'avoir exaucé l'un de ses vœux. Son père serra le passeport parmi ses hardes après l'avoir enveloppé soigneusement dans un morceau de linge. Praskovi remarqua cette précaution qui lui parut de bon augure, car il aurait pu le déchirer. Elle n'attribua le refus de son père qu'à un dessein particulier de la Providence qui n'avait pas encore marqué l'heure de son départ. Bientôt après, elle se rendit au bois, où elle passa 2 heures à prier, se livrant à toute la joie que son ardente imagination lui inspirait et n'ayant plus aucun doute sur le succès de son entreprise. Ces détails pourront paraître à quelques personnes puérils et minutieux, mais lorsqu'on verra les projets de cette jeune fille réussir au-delà de ses espérances et de toute probabilité, malgré les obstacles sans nombre qu'elle avait à surmonter, on se convaincra qu'aucun motif humain n'aurait suffi pour la conduite au but qu'elle se proposait, et qu'il fallait pour une telle œuvre cette foi qui transporte les montagnes. Dans tout ce qui lui arrivait, Praskovi voyait toujours le doigt de Dieu. Aussi disait-elle, j'ai été quelquefois éprouvée, mais jamais trompée dans ma confiance en lui. Un incident qui eut lieu peu de jours après vint encore animer son courage et contribua peut-être à déterminer ses parents. Sa mère, sans être absolument superstitieuse, s'amusait parfois à chercher les pronostics de l'avenir dans les plus petits événements de la vie. Sans croire aux jours malheureux, elle évitait cependant d'entreprendre quelque chose le lundi, et n'aimait point avoir renversé la salière. Quelquefois, elle prenait la Bible et l'ouvrant au hasard, elle cherchait dans la première page qui lui tombait sous les yeux quelque chose d'analogue à sa situation et dont elle put tirer un bon augure. Cette manière de constituer le sort est très usitée en Russie. Lorsque la phrase est insignifiante, on recommence, et en tiraillant un peu le sens, on finit par lui donner la tournure qu'on désire. Les malheureux s'attachent à tout, et sans ajouter beaucoup de foi à ces prédictions, ils éprouvent un certain plaisir lorsqu'elles s'accordent avec leurs espérances. Lopoulov était dans l'usage de lire le soir un chapitre de la Bible à sa famille. Il expliquait aux femmes les mots slavons qu'elles ne comprenaient pas, et cette occupation plaisait intimement à sa fille. À la fin d'une triste soirée, ces trois solitaires étaient auprès d'une table sur laquelle était le livre saint. La lecture était achevée, et le plus morne silence régnait entre eux, lorsque Praskovi, s'adressant à sa mère sans autre but que celui de renouer la conversation, « Ouvrez, je vous prie, la Bible, lui dit-elle, et cherchez dans la page à droite la 11e ligne. » Sa mère prit le livre avec empressement et l'ouvrit avec une épingle. Ensuite, comptant les lignes jusqu'à la 11e, à droite, elle lut à haute voix les paroles suivantes. Or, un ange de Dieu appela Agar du ciel et lui dit « Que faites-vous là? Ne craignez point !» L'application de ce passage de l'Écriture sainte était trop facile à faire pour que l'analogie frappante qu'il présentait avec le voyage projeté pût échapper à personne. Praskovi, transporté de joie, prit la Bible et en baisa les pages à plusieurs reprises. « C'est vraiment singulier, » disait la mère en regardant son mari. Mais celui-ci, ne voulant pas favoriser leur idée à ce sujet, s'éleva fortement contre ces ridicules divinations. « Croyez-vous, » disait-il aux deux femmes, « que l'on puisse ainsi interroger Dieu en ouvrant un livre avec une épingle et qu'il daigne répondre à toutes vos folles pensées ?» « Sans doute, ajouta-t-il en s'adressant à sa fille, un ange ne manquera pas de vous accompagner dans votre extravagant voyage et de vous donner à boire quand vous aurez soif. Ne sentez-vous pas quelle est la folie de s'abandonner à de semblables espérances ?» Praskovi lui répondit qu'elle était bien loin d'espérer qu'un ange lui apparût pour l'aider dans son entreprise. « Mais cependant, disait-elle, j'espère et crois fermement que mon ange gardien ne m'abandonnera pas et que mon voyage aura lieu quand je m'y opposerai moi-même. » Lopoulov était ébranlé par cette persévérance inconcevable. Cependant, un mois s'écoula sans qu'il fût question du départ. Praskovi devenait silencieuse et préoccupée. Toujours seule dans les bois ou dans son réduit, elle ne donnait plus aucune marque de tendresse à ses parents. Comme elle avait souvent menacé de partir sans passeport, ils commencèrent à craindre sérieusement qu'elle n'accomplisse son projet, et ils prenaient de l'inquiétude lorsqu'elle s'absentait de la maison plus longtemps qu'à l'ordinaire. Il arriva même un jour qu'ils la crurent décidément partie. Praskovi, en revenant de l'église, où elle était allée seule, avait accompagné le jeune paysan dans une chaumière voisine et s'y était arrêté quelques heures. Lorsqu'elle revint à la maison, sa mère l'embrassa tout en larmes. « Oh, tu as bien tardé !» lui dit-elle. « Nous avons cru que tu nous avais quittés pour toujours. »« Vous aurez bientôt ce chagrin, » lui répondit sa fille, puisque vous ne voulez pas me livrer le passeport. Vous regretterez alors de m'avoir privé de cette ressource et de votre bénédiction. » Elle prononça ces paroles sans répondre aux caresses de sa mère, et d'un ton de voix si triste et si altéré que la bonne mère en fut vivement affectée. Elle lui promit, pour la tranquilliser, de ne plus mettre d'opposition à son départ, qui dépendrait uniquement de la permission de son père. Praskovi ne demandait plus, mais sa profonde tristesse la sollicitait plus éloquemment que n'auraient pu le faire les supplications des plus vives. Lopoulov lui-même ne savait à quoi se résoudre. Sa femme le priait un matin d'aller prendre quelques pommes de terre dans un petit jardin qu'il cultivait près de la maison. Immobile et plein de ses tristes pensées, il paraissait ne faire aucune attention à cette demande. Enfin, revenant tout à coup à lui, « Allons, dit-il, comme pour s'encourager, aide-toi, je t'aiderai. » En achevant ces mots, il prit une bêche et se rendit au jardin. Praskoville suivit. « Sans doute, mon père, il faut s'aider dans le malheur, et j'espère aussi que Dieu m'aidera dans la prière que je viens vous faire et qu'il touchera votre cœur. » « Rendez-moi le passeport, cher et malheureux père. Croyez que c'est la volonté de Dieu. Voulez-vous forcer votre fille à l'horrible malheur de vous désobéir ?» En parlant ainsi, Praskovi embrassait ses genoux et tâchait de lui inspirer la même confiance qu'il animait. La mère survint. Sa fille la conjura de l'aider à fléchir son père. Mais la bonne femme ne put s'y résoudre. Elle avait eu la force de consentir au départ, mais elle n'avait point le courage de le demander. Cependant, le Poulov ne put résister plus longtemps à de si touchantes sollicitations. Il savait d'ailleurs sa fille décidée, si décidée, qu'il craignait de la voir partir sans passeport. « Et que faire avec cet enfant ? » s'écria-t-il. « Faudra bien la laisser partir. » Praskovi, transporté de joie, s'élança au cou de son père. « Soyez sûr, lui disait-elle en l'accablant des plus tendres caresses, que vous ne vous repentrez pas de m'avoir écouté. J'irai, mon père, oui, j'irai à Saint-Pétersbourg. Je me jetterai aux pieds de l'empereur et cette même providence qui m'en inspire à la pensée et qui a touché votre cœur, voudra bien aussi disposer celui de notre grand monarque en notre faveur. Hélas, lui répondit son père en versant des larmes, crois-tu, pauvre enfant, que l'on puisse parler à l'empereur comme tu parles à ton père en Sibérie? Mais des sentinelles gardent de toutes parts les aventures de son palais, et tu pourras jamais en passer le seuil. Pauvre et mendiante, sans habit, sans recommandation, mais comment oserais-tu paraître? Et qui daignera te présenter? Praskovi sentait la force de ses observations, sans en être découragé. Un pressentiment secret l'emportait sur tous les raisonnements. « Je conçois les craintes que vous inspire votre tendresse pour moi, » répondit-elle. « Mais que de motifs n'ai-je pas d'espérer? Réfléchissez de grâce. Voyez de combien de faveurs inespérées Dieu m'a déjà comblé, parce que j'avais déjà mis toute ma confiance en lui. Je ne savais comment avoir un passeport. Il a forcé la bouche de l'incrédule à m'indiquer les moyens de l'obtenir. C'est lui qui a fléchi l'inexorable gouverneur de Tobolsk. Enfin, malgré votre invincible répugnance, ne vous a-t-il pas forcé vous-même à m'accorder la permission de partir? Soyez donc certain, ajouta-t-elle, que cette providence qui m'a fait surmonter tant d'obstacles et qui m'a si visiblement prolongé jusqu'à ici sera me conduire aux pieds de votre empereur. Elle mettra dans ma bouche les paroles qui doivent le persuader, et votre liberté sera la récompense du consentement que vous m'accordez. » Dès cet instant, Le départ de la jeune fille fut décidé, mais n'en détermina point encore l'époque précise. Lopoulov espérait tirer quelque secours de ses amis. Plusieurs prisonniers avaient des moyens. Quelques-uns même lui avaient fait, en d'autres occasions, des offres que sa discrétion ne lui avait pas permis d'accepter. Mais en cette occasion, il se proposait d'en profiter. Il désirait aussi trouver quelque voyageur qui pût accompagner sa fille pendant les premières marches. Il fut trompé dans cette double attente. Cependant, Praskovi pressait son départ. Toute la fortune de la famille consistait dans 1 rouble en argent. Après avoir vainement tenté d'augmenter cette maudite somme, on fixa le jour de la cruelle séparation, d'après le désir de la voyageuse, au 8 septembre, jour d'une fête de la Vierge. Aussitôt que la nouvelle s'en répandit dans le village, toutes leurs connaissances vinrent la voir, poussées par la curiosité plutôt que par véritable intérêt. Au lieu de l'aider ou de l'encourager dans son entreprise, on désapprouva généralement son père de lui avoir accordé la permission de partir. Ceux qui auraient pu lui donner quelque secours parlèrent des circonstances malheureuses qui empêchent souvent les meilleurs amis de se rendre service aux besoins. Et au lieu de l'assistance et des consolations que la famille en attendait, ils ne lui laissèrent en l'abattant que de sinistres présages. Cependant, deux des plus pauvres et des plus obscurs prisonniers prirent la défense de Praskovi et l'encouragèrent par leurs conseils. On a vu, disait-il, des choses plus difficiles réussir contre toute espérance. Sans parvenir elle-même jusqu'au souverain, elle trouvera des protecteurs qui parleront pour elle lorsqu'on la connaîtra et qu'on l'aimera comme nous. Le 8 septembre, à l'aube du jour, ces deux hommes revinrent pour prendre congé d'elle et pour assister à son départ. Ils la trouvèrent déjà toute disposée pour le grand voyage et chargée d'un sac qu'elle avait préparé depuis longtemps. Son père lui remit le rouble qu'il lui destinait, mais qu'elle ne voulait point accepter. Elle représentait que cette petite somme ne pouvait pas la conduire jusqu'à Saint-Pétersbourg, tandis qu'elle pouvait leur devenir nécessaire. Un ordre absolu de son père put seul la lui faire accepter. Les deux pauvres exilés voulurent aussi contribuer au petit fonds qu'elle emportait pour le voyage. L'un offrit 30 copecks en cuivre et l'autre une pièce de 20 copecks en argent. C'était leur subsistance de plusieurs jours. Praskovi refusa leur offre généreuse, mais elle en fut vivement touchée. Si la Providence, leur dit-elle, accorde jamais quelque faveur à mes parents, j'espère que vous en aurez une part. Dans ce moment, les premiers rayons du soleil levant parurent dans la chambre. L'heure est venue, dit-elle, il faut nous séparer. Elle s'assit, ainsi que ses parents et les deux amis, comme il est d'usage en Russie en pareilles circonstances. Lorsqu'un ami part pour un voyage de long cours, au moment de faire les derniers adieux, le voyageur s'assied, toutes les personnes présentes doivent l'imiter, et après une minute de repos, pendant laquelle on parle du temps et de choses indifférentes, on se lève et les pleurs et les embrassements commencent. Cette cérémonie, qui au premier coup d'œil paraît insignifiante, a cependant quelque chose d'intéressant. Avant de se séparer pour longtemps, peut-être pour toujours, on se repose encore quelques moments ensemble, comme si l'on voulait tromper la destinée et lui dérober cette courte jouissance. Praskovi reçut à genoux la bénédiction de ses parents, et s'arrachant courageusement de leurs bras, quitta pour toujours la chaumière qui lui avait servi de frison depuis son enfance. Les deux exilés l'accompagnèrent pendant la première verste. Le père et la mère, immobiles sur le seuil de la maison, la suivirent longtemps des yeux, voulant lui donner de loin un dernier adieu. Mais la jeune fille ne regarda plus en arrière et disparut bientôt dans l'éloignement. Lopoulov et sa femme rentrèrent alors dans leur triste demeure, qui désormais allait leur paraître bien déserte. Les malheureux vécurent encore plus isolés qu'auparavant. Les autres habitants d'Ishim accusaient le père d'avoir lui-même poussé sa fille à cette imprudente entreprise et le tournaient en ridicule à ce sujet. On se moquait surtout des deux prisonniers qui, dans leur simplicité, n'avaient pas caché la promesse que Praskovi leur avait faite de s'intéresser à eux, et on les félicitait d'avance sur leur bonne fortune. Laissons maintenant cette région de peine et suivons notre intéressante voyageuse. Lorsque les deux amis qui l'avaient accompagnée la quittèrent, elle avait trouvé plusieurs jeunes filles qui faisaient la même route qu'elle jusqu'au village voisin, éloigné d'Ishim d'environ 25 verstes. Chemin faisant, elles furent accostées par une bande de jeunes paysans dont quelques-uns étaient à moitié ivres. Ils descendirent de cheval sous prétexte de les accompagner. C'était à l'entrée d'un grand bois. Les voyageuses alarmées ne voulurent point s'y acheminer avec eux. Elles avaient quelques provisions et s'assirent au bord du chemin pour se restaurer en priant les villageois de continuer leur route. Mais ils s'assirent avec elles en déclarant vouloir partager leur déjeuner et les accompagner ensuite jusqu'au village. Dans cette perplexité, Praskovi, pour éloigner ses importuns, crut pouvoir employer une petite ruse qui lui réussit. « Nous irions volontiers avec vous, leur dit-elle, mais nous devons attendre ici nos frères qui nous amènent des chariots pour nous transporter. » Les jeunes gens virent en effet dans l'éloignement deux chariots que Praskovi avait aperçus avant eux. Bientôt après, ils remontèrent à cheval et disparurent. « C'était un petit mensonge, disait-elle en racontant sa première aventure, mais il ne m'a pas porté malheur. » Elle parvint heureusement au village où elle devait s'arrêter et logea chez un paysan de sa connaissance qui la traita fort bien. Le lendemain, à son réveil, la fatigue de la première marche qu'elle eût jamais faite se faisait vivement sentir. En sortant de l'isba où elle avait passé la nuit, elle eut un moment d'effroi lorsqu'elle se vit toute seule. L'histoire d'Agar dans le désert lui revint à la mémoire et lui rendit son courage. Elle fit le signe de la croix et s'achemina en se recommandant à son ange gardien. Après avoir dépassé quelques maisons, elle aperçut l'enseigne de l'aigle sur le cabaret du village devant lequel elle avait passé la veille. Ce qui lui fit juger qu'au lieu d'avoir pris le chemin de Pétersbourg, elle revenait sur ses pas. Elle s'arrêta pour s'orienter et vit son hôte qui souriait sur le pas de sa porte. « Si vous voyagez de cette manière, s'écria-t-il, vous n'irez pas loin et vous feriez peut-être mieux de retourner chez vous. » Cet accident lui arriva quelquefois dans la suite, et lorsque dans son indécision elle demandait le chemin de Pétersbourg, à l'extrême distance où elle se trouvait de cette ville, on se moquait d'elle, ce qui la jetait dans un grand embarras. Praskovi, n'ayant aucune idée de la géographie du pays qu'elle avait à parcourir, s'était imaginé que la ville de Kiev, fameuse dans la région du pays et dont sa mère lui avait souvent parlé, se trouvait sur le chemin de Pétersbourg. Elle avait le projet d'y faire ses dévotions en passant et s'y promettait d'y prendre un jour le voile si son entreprise réussissait. Dans la fausse idée qu'elle s'était formée de la situation de cette ville, Voyant qu'on souriait lorsqu'elle demandait le chemin de Pétersbourg, elle demandait aux passants celui de Kiev, ce qui lui réussissait plus mal encore. Une fois, entre autres, se trouvant indécise sur le choix de plusieurs chemins qui se croisaient, elle attendit un kibitz qui s'approchait et pria les voyageurs de lui indiquer celui de ces chemins qui conduisait à Kiev. Ils crurent qu'elle plaisantait. « Oh, prenez, lui dirent-ils en riant, celui que vous voudrez. Ils conduisent tous également à Kiev, à Paris et à Rome. » Elle prit celui du milieu, qui se trouva heureusement être le sien. Elle ne pouvait donner aucun détail exact sur la route qu'elle avait tenue, ni sur le long des villages par lesquels elle avait passé et qui se confondaient dans sa mémoire. Lorsqu'elle arrivait dans un hameau peu considérable, elle était ordinairement bien accueillie par les maîtres de la première maison où elle demandait l'hospitalité. Mais dans les gros villages, et lorsque les maisons avaient une bonne apparence, elle avait presque toujours de la peine à trouver un asile. On la prenait souvent pour une aventurière de mauvaise mœur, et ce soupçon si injuste lui donna de grands désagréments pendant son voyage. Quelques marches avant d'arriver à Kabouïchev, un violent orage la surprit en chemin, comme elle achevait à peine de tiges des plus longues journées qu'elle eut encore faites. Elle redoubla de vitesse pour atteindre les premières habitations qu'elle ne croyait pas être fort éloignées. Mais un tourbillon de vent ayant renversé un arbre devant elle, la frayeur lui fit chercher un refuge dans un bois voisin. Elle se plaça sous un sapin entouré de hauts buissons pour se préserver de la violence du vent. La tempête dura toute la nuit. La jeune fille la passa sans abri dans ce lieu désert, exposée au torrent de la pluie qui ne cessa que vers le matin. Lorsque l'aube parut, elle se traîna jusqu'au chemin, exténuée de froid et de faim, pour continuer sa route. Heureusement, un paysan qui passait eut pitié d'elle et lui offrit une place sur son chariot. Vers les 8 heures du matin, elle arriva dans un grand village. Le paysan, qui ne devait pas s'y arrêter, la déposa au milieu de la rue et continua sa route. Praskovie pressentait qu'elle serait mal reçue. Les maisons avaient une bonne apparence. Cependant, pressée par la fatigue et la faim, elle s'approcha de la fenêtre basse auprès de laquelle une femme de 40 à 50 ans triait des pois et la pria de la recevoir chez elle. La villageoise, après l'avoir examinée quelques instants d'un air de mépris, la renvoya durement. En descendant du chariot qui l'avait amenée, Praskovie était tombée dans la boue et ses habits en étaient couverts. La cruelle nuit qu'elle venait de passer dans la forêt, ainsi que le manque de nourriture, avait sans doute aussi altéré ses traits et lui donnait un aspect défavorable. La malheureuse fut rejetée de toutes les maisons où elle se présenta. Une méchante femme, à la porte de laquelle, vaincue par la fatigue, elle s'était assise, et qu'elle conjurait de la recevoir, la força par des menaces de s'éloigner, en lui disant qu'elle ne recevait chez elle ni les voleurs ni les coureuses. La jeune fille, voyant une église devant elle, s'y achemina tristement. « Du moins, se disait-elle, on ne m'en chassera pas. » La porte s'en trouva fermée. Elle s'assit sur les marches qui y conduisaient. Des petits garçons qui l'avaient suivie et qui s'étaient attroupés autour d'elle lorsque la femme la maltraitait, continuèrent à l'insulter et à la traiter de voleuse. Elle demeura près de 2 heures dans cette situation pénible, se mourant de froid, d'inanition, priant Dieu de l'assister, de lui donner la force de supporter cette épreuve. Cependant, une femme s'approcha pour l'interroger. Plaskovy raconta l'affreuse nuit qu'elle avait passée dans le bois. D'autres paysans s'arrêtèrent pour l'entendre. Le staroste du village examina son passeport et déclara qu'il était en règle. Alors la bonne femme attendrie lui offrit sa maison. Mais lorsque la voyageuse voulut se soulever, ses membres étaient tellement engourdis qu'on fut obligé de la soutenir. Elle avait perdu un de ses souliers, elle montra son pied nu et ses jambes enflées. Une pitié générale succéda bientôt aux indignes soupçons qu'il avait fait maltraiter. On la plaça sur un chariot, et les mêmes enfants qu'il avait insultés quelques moments auparavant s'empressèrent de la traîner et la conduisirent ainsi chez la villageoise qui la reçut avec beaucoup d'amitié et chez laquelle elle passa plusieurs jours. Pendant ce temps de repos, un paysan charitable lui fit une paire de bottines. Enfin, lorsqu'elle eut recouvré sa santé et ses forces, elle prit congé de la bonne femme et continua son voyage, qu'elle poursuivit jusqu'à l'hiver, s'arrêtant plus ou moins dans différents villages, selon que la fatigue lui obligeait, et d'après l'accueil qu'elle recevait des habitants. Elle tâchait, pendant le séjour qu'elle y faisait, de se rendre utile en balayant la maison, en lavant le linge ou en cousant pour ses hôtes. Elle ne contait son histoire que lorsqu'elle était déjà reçue et établie dans la maison. Elle avait remarqué que lorsqu'elle voulait se faire connaître au premier abord, on ne la croyait pas et qu'on la prenait pour une aventurière. En effet, les hommes sont généralement disposés à se roidir lorsqu'ils aperçoivent qu'on veut les gagner. Il faut les toucher sans qu'ils s'en doutent, et ils accordent plus volontiers leur pitié que leur estime. Plaskovy commençait donc par demander un peu de pain, puis elle parlait de la fatigue dont elle était accablée pour obtenir l'hospitalité. Enfin, lorsqu'elle était établie chez ses hôtes, elle disait son nom et racontait son histoire. C'est ainsi que, dans son pénible voyage, elle faisait peu à peu le cruel apprentissage du cœur humain. Souvent, des personnes qui l'avaient rejetée, la voyant s'éloigner en pleurant, la rappelaient et la traitaient fort bien. Les mendiants accoutumés au refus y paraissent peu sensibles, mais Plaskovy, quoique placée par le sort dans une situation déplorable, n'avait point encore été, avant son voyage, dans le cas d'implorer la pitié. Et malgré toute sa force d'âme et sa résignation, elle était navrée des refus, surtout lorsqu'ils provenaient de la mauvaise opinion que l'on prenait d'elle. Le bon effet qu'avait produit dans la circonstance dont nous venons de parler l'exhibition de son passeport l'engagea dans la suite à le montrer lorsqu'elle désirait obtenir plus de faveurs de ses hôtes. Elle y était qualifiée de fille de capitaine, ce qui lui fut utile en plusieurs occasions. Cependant, elle avouait que le malheur d'être repoussée lui était arrivé rarement, tandis que les traitements d'humanité et de bienveillance qu'elle avait éprouvés étaient innombrables. On s'imagine, disait-elle dans la suite, que mon voyage a été bien désastreux parce que je ne raconte que les peines et les embarras dans lesquels je me suis trouvé, et que je ne dis rien des bons gîtes que j'ai rencontrés et dont personne ne désire savoir l'histoire. Parmi les situations pénibles de son voyage, il en est une dans laquelle la jeune fille crut sa vie menacée et qui mérite d'être connue pour sa singularité. Elle marchait un soir le long des maisons d'un village pour chercher un logement, lorsqu'un paysan, qui venait de lui refuser très durement l'hospitalité, la suivit et la rappela. C'était un homme âgé de très mauvaise mine. Praskovie hésita si elle accepterait son offre et se laissa cependant conduire chez lui, craignant de ne pas obtenir un autre gîte. Elle se trouva dans l'isba qu'une femme âgée et dont l'aspect était encore plus sinistre que celui de son conducteur. Ce dernier ferma soigneusement la porte et poussa les guichets des fenêtres. En la recevant dans leur maison, ces deux personnes lui firent peu d'accueil. Elles avaient un air si étrange que Praskovie éprouvait une certaine crainte et se repentait de s'être arrêtée chez elle. On la fit asseoir. L'isba n'était éclairée que par des esquilles de sapins enflammés, plantées dans un trou de la muraille et qu'on remplaçait souvent lorsqu'elles étaient consumées. À la clarté lugubre de cette flamme, lorsqu'elle se hasardait à lever les yeux, elle voyait ceux de ses hôtes fixés sur elle. Enfin, après quelques minutes de silence, « D'où venez-vous ? » lui demanda la vieille. Ben, « Je viens d'Ischim et je vais à Pétersbourg. »« Oh, oh ! Vous avez donc beaucoup d'argent pour entreprendre un si long voyage. » « Il me reste que 80 kopecks en cuivre, » répondit la voyageuse intimidée. « Tu mens !» s'écria la vieille. « Oui, tu mens. On ne se met point en route pour aller si loin avec si peu d'argent. » La jeune fille avait beau protester que c'était là tout son avoir, on ne la croyait pas. La femme ricanait avec son mari. « De Tobolsk à Pétersbourg, avec 80 kopecks, disait-elle. C'est probable, vraiment. » La malheureuse fille, outragée et tremblante, retenait ses larmes et priait Dieu tout bas de la secourir. On lui donna cependant quelques pommes de terre, et dès qu'elle les eut mangées, son hôtesse lui conseilla de s'aller coucher. Praskovie, qui commençait fortement à soupçonner ses hôtes d'être des voleurs, aurait volontiers donné le reste de son argent pour être délivrée de leurs mains. Elle se déshabilla en partie avant de monter sur le poêle où elle devait passer la nuit, laissant en bas à leur portée ses poches et son sac, afin de leur donner la facilité de compter son argent et pour s'épargner la honte d'être fouillée. Dès qu'ils la crurent endormie, ils commencèrent leurs recherches. Praskovie écoutait avec anxiété leur conversation. « Elle a encore de l'argent sur elle, disait-il. Elle a sûrement des assignations. » « J'ai vu, ajouta la vieille, un cordon placé à son cou, auquel pend un petit sac. C'est là où doit être l'argent. » C'était un petit sac de toile cirée contenant son passeport qu'elle ne quittait jamais. Ils se mirent à parler encore plus bas, et les mots qu'elle entendait de temps en temps n'étaient pas faits pour la rassurer. « Personne ne l'a vu entrer chez nous, » disaient les misérables. « On ne se doute même pas qu'elle soit dans le village. » Ils parlèrent encore plus bas. Après quelques instants de silence, et lorsque son imagination lui peignait les plus grands malheurs, la jeune fille vit tout à coup paraître auprès d'elle la tête de l'horrible vieille qui grimpait sur le poêle. Tout son sang se glaça dans ses veines. Elle la conjura de lui laisser la vie, l'assurant de nouveau qu'elle n'avait point d'argent. Mais l'inexorable visiteuse, sans lui répondre, se mit à chercher dans ses habits, dans ses bottines, qu'elle lui fit ôter. L'homme apporta de la lumière, on examina le sac du passeport, on lui fit ouvrir les mains. Enfin, le vieux couple, voyant ses recherches inutiles, descendit et laissa notre voyageuse plus morte que vive. Cette scène effrayante, et plus encore la crainte de la voir se renouveler, l'atteint longtemps éveillée. Cependant, lorsqu'elle reconnut dans leur respiration bruyante que ses hôtes s'étaient endormis, elle se tranquillisa peu à peu et, la fatigue l'emportant sur la frayeur, elle s'endormit elle-même profondément. Il était grand jour lorsque la vieille la réveilla. Elle descendit du poêle et fut tout étonnée de lui trouver, ainsi qu'à son mari, un air plus naturel et plus affable. Elle voulait partir, ils la retinrent pour lui donner à manger. La vieille en fit aussitôt les préparatifs avec beaucoup plus d'empressement que la veille. Elle prit la fourche et retira du poêle le pot au chi, dont elle lui servit une bonne portion. Pendant ce temps, le mari soulevait une trappe du plancher sous lequel était le seau du kvass et lui en servit une pleine cruche. Un peu rassurée par ce bon traitement, elle répondit avec sincérité à leurs questions et raconta une partie de son histoire. Ils eurent l'air d'y prendre intérêt, et voulant justifier leur conduite précédente, ils l'assurèrent qu'ils n'avaient voulu savoir si elle avait de l'argent que parce qu'ils l'avaient mal à propos soupçonné d'être une voleuse, mais qu'elle pourrait voir en comptant sa petite somme qu'ils étaient bien loin eux-mêmes d'être des voleurs. Enfin, Praskovi prit congé d'eux, ne sachant trop si elle leur devait des remerciements, mais se trouvant fort heureuse d'être hors de leur maison. Lorsqu'elle eut fait quelques verstes hors du village, elle eut la curiosité de compter son argent. Le lecteur sera sans doute aussi surpris qu'elle le fut elle-même, en apprenant qu'au lieu de 80 copecs qu'elle croyait avoir, elle en trouva 120. Les autres en avaient ajouté 40. Praskovi aimait à redire cette aventure comme une preuve évidente de la protection de Dieu qui avait changé tout à coup le cœur de ces malhonnêtes gens. Quelque temps après, elle courut un danger d'une autre espèce et qui l'effraya beaucoup. Comme elle avait un jour une longue traite à faire, elle partit à 2 heures du matin de la station où elle avait couché. Au moment de sortir du village, elle fut attaquée par une troupe de chiens qui l'entourèrent. Elle se mit à courir en se défendant avec son bâton, ce qui ne fit qu'augmenter leur rage. Un de ces animaux saisit le bas de sa robe et la déchira. Elle se jeta à terre en se recommandant à Dieu. Elle le sentit même avec horreur, un des plus obstinés, appuyer son effroi sur son cou pour la flairer. « Oh, je pensais, disait-elle, que celui qui m'avait sauvé de l'orage et des voleurs me préserverait aussi de ce nouveau danger. » Les chiens ne lui firent aucun mal. Un paysan qui passait les dispersa. La saison avançait. Praskovi fut retenue près de 8 jours dans un village par la neige, qui était tombée en si grande abondance que les chemins étaient impraticables aux piétons. Lorsqu'ils furent suffisamment battus par les traîneaux, elle se disposait courageusement à continuer sa route à pied, mais les paysans chez lesquels elle avait logé l'en dissuadèrent et lui en firent voir le danger. Cette manière de voyager devient alors impossible aux hommes, même les plus robustes, qui périraient infailliblement égarés dans ces déserts glacés lorsque le vent chasse la neige et fait disparaître les chemins. Son bonheur amena dans ce village un convoi de traîneaux qui conduisait des provisions à Ekaterinbourg pour les fêtes de Noël. Les conducteurs lui donnèrent une place sur un de leurs traîneaux. Cependant, malgré les soins que ces braves gens prenaient d'elle, ses habits n'étant pas assortis à la saison, Elle avait bien de la peine à supporter la rigueur de l'hiver, enveloppée dans une des nattes destinées à couvrir les marchandises. Le froid devint si violent pendant la quatrième journée que lorsque le convoi s'arrêta, la voyageuse transie n'eut pas la force de descendre du traîneau. En la transportant dans le Karsma, auberge isolée à plus de 30 verstes de toute habitation, et où se trouvait la station de la poste aux chevaux. Les paysans s'aperçurent qu'elle avait une joue gelée et la lui frottèrent avec de la neige en prenant le plus grand soin d'elle, mais ils refusèrent absolument de la conduire plus loin et lui représentèrent qu'elle courrait le plus grand danger en s'exposant à voyager sans pelisse par un froid si vif et qu'il ne manquerait pas d'augmenter encore. La jeune fille se mit à pleurer amèrement, prévoyant qu'elle ne trouverait plus une occasion aussi favorable et d'aussi bonnes gens pour la conduire. D'autre part, les maîtres du Hartzma ne paraissaient pas du tout disposés à la garder et voulurent à toute force qu'elle partît avec ceux qui l'avaient amenée. Dans cette position embarrassante, se voyant déçue de l'espoir qu'elle avait d'aller jusqu'à Ekaterinenbourg, en sûreté, elle s'abandonnait dans un coin de la chambre à toute la vivacité de sa douleur. Ses conducteurs furent touchés de sa situation. Ils se cotisèrent pour lui acheter une pelisse de mouton qui, dans le pays, ne coûte que 5 roubles. Malheureusement, il ne s'en trouva point à vendre. Aucun des habitants de cette ville isolée ne voulut faire le sacrifice de la sienne parce qu'il était difficile de la remplacer. Les paysans offrirent jusqu'à 7 roubles à une fille de l'auberge qui les refusa. Dans cette perplexité, un des plus jeunes conducteurs proposa tout d'un coup un expédient des plus singuliers et qui permit à Praskovi de profiter de leur bonne volonté. « Ben, nous lui prêterons, dit-il, tour à tour, nos pelisses, ou bien elle prendra la mienne une fois pour toutes, et nous changerons entre nous à chaque verse. » Ils y consentirent tous avec plaisir. On fit aussitôt le calcul de la distance et du nombre de fois que les pelisses devaient être changées. Les paysans russes veulent savoir leur compte, se laissent difficilement tromper. La voyageuse fut placée sur un traîneau bien enveloppé dans sa pelisse. Le jeune homme qui la lui avait cédée se couvrit avec la natte dont elle s'était servie jusqu'alors et, s'asseyant sur ses pieds, se mit à chanter à tue-tête et ouvrit la marche. L'échange des pelisses fit exactement à chaque poteau des verstes et le convoi parvint très heureusement et très vite à Ekaterinenbourg. Pendant toute la route, Praskovi ne cessa de prier Dieu pour que la santé de ses conducteurs ne souffrît pas de leur bonne action. En arrivant à Ekaterinenbourg, Praskovi logea dans la même auberge que ses conducteurs. L'hôtesse, apprenant de ces derniers une partie des aventures de la jeune fille et jugeant, d'après leur récit, qu'elle était sans argent, lui fit aussitôt l'énumération des personnes de la ville qui passaient pour être les plus généreuses et lui conseilla de s'adresser à elles pour obtenir leur protection et le secours nécessaire pour le long voyage qu'elle avait à faire. Elle loua beaucoup, entre autres, une dame Miline, du caractère le plus obligeant, qui faisait beaucoup de bien aux pauvres et dont la bonté était connue de toute la ville. Les gens de l'auberge confirmèrent la vérité de ce portrait. Lors même que la voyageuse n'aurait pas compris l'intention de l'hôtesse, elle aurait été forcée de chercher un autre gîte. L'auberge était, ce qu'on appelle en russe, postolairodvor, une maison de repos. Elles sont ordinairement formées d'un vaste hangar pour les chevaux, qui n'a que le toit pour couverture, et dans l'angle duquel est une serre chaude qui en occupe la quatrième partie. Les voyageurs s'arrangent comme ils peuvent dans cette pièce unique, dont le plancher sert de lit à ceux qui ne veulent avoir de place sur le poêle. Le lendemain, Praskovi sortit d'assez bonne heure, dans l'intention de se rendre chez Madame Milin. Mais, suivant son habitude, elle commença par aller à l'église, où se trouvait plus de monde qu'elle n'en avait jamais vu rassembler. C'était un dimanche. La ferveur qu'elle mit à ses prières la fit autant remarquer que le sac et le costume qu'elle portait et qui annonçait une étrangère voyageuse. Au sorti de l'église, une dame lui demanda qui elle était. Praskovi satisfit à sa demande en quelques mots et, se disposant bientôt à la quitter, lui fit part de l'intention où elle était d'aller demander l'hospitalité à Madame Milin, dont tout le monde lui avait appris la bienfaisance et l'humanité. Elle parlait à Madame Milin elle-même, qui entendait ainsi son éloge d'une manière qui ne pouvait lui être suspecte de flatterie. Cette bonne dame, avant de se faire connaître à la voyageuse, voulut s'amuser un instant de son embarras. « Cette dame Milin, dit-elle, qu'on vous vante tant, n'est pas aussi bienfaisante que vous l'imaginez. » Si vous voulez m'en croire et venir avec moi, je vous procurerai un bien meilleur gîte. » D'après tout le bien qu'on lui avait dit de Madame Milin à l'auberge, Praskovi prit une mauvaise idée de sa nouvelle connaissance. Elle la suivit sans oser refuser et sans accepter sa proposition. Au reste, lui dit Madame Milin, voyant qu'elle ralentissait le pas, « si vous tenez si fort à vous rendre chez cette dame, voici sa maison, à deux pas d'ici. Entrons chez elle. Vous verrez comment vous y serez reçu, mais promettez-moi que si l'on ne vous y retient pas, vous viendrez avec moi. » Praskovi, sans répondre, entra dans la maison et, s'adressant aux femmes de Madame Milin, leur demanda si leur maîtresse était déjà chez elle. Les femmes, étonnées de cette question faite en présence de leur maîtresse elle-même, ne répondirent rien. « Puis-je voir Madame Milin ?» répéta la voyageuse. « Mais, dit enfin une des femmes, la voilà !» Praskovi, en se retournant, vit Madame Milin qui ouvrait les bras pour la recevoir. « Oh ! Je savais bien que Madame Milin ne pouvait pas être une méchante femme, dit la jeune fille en lui baisant les mains. Cette petite scène fit le plus grand plaisir à sa bienfaitrice. Elle envoya chercher son amie Madame G, aussi bonne et aussi charitable qu'elle, pour lui recommander la jeune voyageuse et pour aviser ensemble aux moyens de lui être utile. Après le déjeuner, et lorsque Praskovi se fut un peu familiarisé avec ses nouvelles protectrices, elle leur raconta dans le plus grand détail l'histoire malheureuse de ses parents et ne leur cacha pas le projet extraordinaire qu'elle avait formé d'aller à Saint-Pétersbourg demander la grâce de son père. Madame Milin, sans trop croire au succès de son entreprise, ne l'en détourna pas. Mais les deux dames résolurent de la retenir jusqu'au printemps. Le froid était devenu excessif. La voyageuse elle-même voyait l'impossibilité de continuer sa route pendant la rigueur de la saison. Et les dames qui voulaient la garder ne lui parlèrent point encore de ce qu'elles avaient le pouvoir de faire et de ce qu'elles firent en effet plus tard pour l'aider dans son entreprise. Praskovi se trouvait bien heureuse chez elle. Les caresses et la noble familiarité de ces personnes distinguées avaient un charme tout nouveau pour elle. Aussi le souvenir du temps fortuné qu'elle passa dans leur société ne sortait point de sa pensée. Lorsque, dans la suite, elle racontait cette partie de son histoire, le nom chéri de Madame Milin amenait toujours dans ses yeux des larmes de reconnaissance. Cependant, sa santé se trouvait fort ébranlée. La nuit désastreuse qu'elle avait passée dans la forêt lui avait laissé un rhume violent que les grands froids n'avaient fait qu'augmenter. Elle profita de son séjour à Ekaterinenbourg pour se soigner et surtout pour apprendre à lire et à écrire. Cette circonstance de sa vie donnerait une bien mauvaise idée de ses parents pour avoir négligé jusqu'à ce point l'éducation de leur unique enfant, si la pensée d'un exil éternel ne leur avait peut-être fait envisager comme inutile ou même dangereuse toute instruction pour leur fille, destinée en apparence à vivre dans les dernières classes de la société. Cette profonde ignorance et l'abandon total dans lequel elle avait vécu jusqu'alors rendent plus extraordinaire encore l'essor généreux de son âme. Quoi qu'il en soit, Praskovie, occupée en Sibérie des travaux domestiques, avait absolument oublié le peu de lecture qu'elle avait apprise dans sa première enfance. Elle se mit à l'étude avec toute l'ardeur et la force de son caractère et fut en quelques mois en état de comprendre un livre de prières que lui avaient donné ses protectrices. L'on était souvent obligé de l'arracher à cette occupation. Le plaisir qu'elle éprouvait en trouvant dans ses prières les sentiments naturels de son cœur développés et exprimés d'une manière si claire et si touchante lui faisait désirer vivement l'instruction. « Combien les gens du monde sont heureux, disait-il, comme ils doivent prier Dieu de bon cœur, étant si bien instruits de leur religion, avec tant de moyens d'exprimer leur dévotion et tant de sujets de reconnaissance envers la Providence pour les faveurs dont elle les a comblés. » Madame Miline souriait à ces réflexions de la jeune fille. Mais elle pensait que rien ne devait être impossible à une piété si vraie, à des prières si ardentes. Cette pensée persuada plus que toute autre chose les deux charitables dames qu'il fallait la favoriser dans ses projets et l'abandonner à la Providence qui semblait la protéger si visiblement. Madame Miline et son amie n'avaient rien négligé jusqu'alors pour la dissuader et lui avaient fait les offres les plus obligeantes, les plus avantageuses pour la retenir auprès d'elle. Mais rien n'avait pu l'ébranler. Elle se reprochait même le bien-être et le bonheur dont elle jouissait à Ekaterinenbourg. « Que fait mon père maintenant tout seul dans le désert ? Tandis que sa fille s'oublie ici, au milieu de toutes les douceurs de la vie. » Telle était la question que ne cessait de s'adresser Praskovie. Ces dames se décidèrent donc à lui donner les moyens de continuer sa route. Au retour du printemps, Madame Miline, après avoir pourvu à tout ce dont elle pourrait avoir besoin, arrêta pour elle une place sur un bateau de transport. Elle la mit sous la garde d'un homme qui se rendait à Nijni pour des affaires de commerce et qui était habitué à ce voyage difficile. Avant de passer les monts Ourals qui séparent Ekaterinenbourg de Nijni, on s'embarque sur les rivières qui sortent de ces mêmes montagnes et qui se portent vers le nord. On voyage par eau jusque dans le Tobol, que l'on quitte ensuite pour s'approcher des montagnes. Le passage n'est ni bien haut ni très difficile. Lorsque on l'a franchi, l'on s'embarque de nouveau sur les eaux qui descendent dans le Volga. Praskovie, n'ayant pas les moyens de se procurer une voiture et de voyager en poste, profita d'une des nombreuses embarcations qui portent en Russie le fer et le sel par la Tchoussova et la Krama. Son conducteur lui épargna tous les embarras de ce long voyage, qu'elle n'aurait pu faire seule sans courir de grands dangers. Mais son malheur voulut que cet homme tombât malade en traversant les défilés et fut contraint de s'arrêter dans un petit village sur les bords de la Khama. Elle fut donc encore livrée à elle-même et privée de tout appui. Elle fit heureusement le trajet jusqu'à l'embouchure de la Rama dans la Volga. Depuis ce lieu, le bateau remontant le fleuve était tiré par des chevaux. La voyageuse éprouva dans ce dernier trajet un accident qui lui fit courir les plus grands dangers. Pendant un de ces violents orages qui sont très fréquents dans ces contrées, les bateliers, voulant éloigner la barque du rivage, poussèrent avec force une grande rame qui servait de gouvernail du côté où plusieurs personnes étaient assises sur le bord du bateau et n'eurent plus le temps de la retirer. Trois passagers, au nombre desquels était Praskovi, furent renversés dans le fleuve. On les retira aussitôt, et la jeune fille ne fut point blessée, mais la honte qu'elle éprouvait de changer de vêtements devant tout le monde fit qu'elle les laissa sécher sur elle. Un violent rhume fut la suite de cet accident qui eut une influence malheureuse sur sa santé. Les dames d'Ekaterinenbourg, qui avaient chargé son conducteur de faire les arrangements nécessaires pour la continuation de son voyage depuis Nijni, ne l'avaient recommandé à personne dans cette ville où Praskovi n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle se trouva donc à son arrivée sans connaissances et sans protection. Les bateliers la déposèrent sur le bord du fleuve avec son petit équipage, qui était devenu plus volumineux par les soins de Madame Milin. En face du pont où l'on débarque ordinairement sur le rivage de la Volga, se trouve une église et un couvent de religieuses situés sur une éminence. Elle s'y achemina pour faire ses prières accoutumées, se proposant d'aller ensuite chercher un gîte quelque part dans la ville. En entrant dans l'église, qui lui parut déserte, elle entendit, au travers de la grille, les chants des religieuses qui achevaient leurs prières du soir, et regarda cette circonstance comme de bon augure. Un jour, se dit-elle, si Dieu favorise mes vœux, je serai de même caché sous le voile, n'ayant plus d'autre occupation que celle de remercier la Providence de ses faveurs. Lorsqu'elle sortit de l'église, le soleil se couchait. Elle s'arrêta quelque temps sous la porte, frappée de la belle vue qui se présentait à ses regards. La ville de Nijni Novgorod, située au confluent de deux grands fleuves, l'Oka et la Volga, offre du point où elle se trouvait un des plus beaux sites que l'on puisse contempler. Son étendue lui paraissait immense et lui inspirait une espèce de crainte. En partant d'Itchim, Praskovi ne s'était représenté que les dangers physiques qu'elle pouvait courir. Elle était préparée d'avance à braver la faim et les froids les plus rigoureux, la mort elle-même. Mais depuis que la société commençait à lui être connue, elle entrevoyait des obstacles d'un autre genre, contre lesquels tout son courage ne pouvait la soutenir. Après avoir échappé au désert, elle pressentait cette affreuse solitude des grandes villes, où le pauvre est seul au milieu de la foule, et où, comme par un horrible enchantement, il ne voit autour de lui que des yeux qui ne regardent pas et des oreilles sourdes à ses plaintes. Depuis qu'elle avait connu les dames d'Ekaterinenbourg, un nouveau sentiment des bienséances et un peu d'orgueil peut-être lui rendait plus pénibles les démarches auxquelles l'obligeait sa situation. « Hélas, disait-elle, où trouverais-je des amis comme celles que j'ai quittées ? Me voilà maintenant à plus de 1000 verstes d'elle. Que deviendrai-je en arrivant à Pétersbourg, lorsque j'approcherai du palais impérial, moi qui tremble de me présenter ici, dans une misérable auberge ?» Ces réflexions s'offrirent avec tant de force à son esprit que pour la première fois un profond découragement s'empara d'elle et lui arracha des larmes. Le souvenir de son père, qu'elle avait abandonné, peut-être inutilement, la remplit de regrets et de terreur. Mais bientôt, elle se reprocha sa faiblesse et son manque de confiance en Dieu. Elle en demanda pardon à son ange gardien. Et ce fut lui, sans doute, disait-elle en parlant de cette circonstance de sa vie, ce fut lui qui m'inspira la pensée de rentrer dans l'église pour demander à Dieu le courage que j'avais perdu. En effet, elle rentra précipitamment pour implorer le secours du ciel. Une religieuse se trouvait en ce moment près de la porte pour la fermer. Frappée du mouvement subit de la jeune étrangère, qui ne l'aperçut pas, ainsi que de la ferveur qu'elle mettait à ses prières, elle l'aborda pour l'interroger et l'avertir qu'il était l'heure de fermer l'église. Praskovie, un peu déconcertée, lui raconta naïvement la cause de sa brusque rentrée dans le temple, lui fit part de la répugnance qu'elle avait d'aller chercher un asile dans une auberge, et finit par la supplier de lui en accorder un dans le couvent, ne fût-ce que dans les cloîtres. La portière lui répondit qu'on ne logeait pas les étrangers dans le couvent, mais que Madame l'abbesse pourrait lui donner quelques secours. « Je n'en demande pas d'autre qu'un asile pour cette nuit, » répliqua Praskovie en montrant une bourse qui contenait quelque argent. « Des dames charitables m'ont donné les moyens de me passer d'aumône pour quelque temps, et je ne demande que la protection du couvent pour cette nuit. Demain, je continuerai ma route. » La religieuse consentit à la conduire chez l'abbesse. La respectable supérieure était en prière lorsqu'elles entrèrent dans sa chambre. La portière s'arrêta près de la porte et se mit à genoux. Praskovie l'imita et prie à Dieu de lui rendre l'abbesse favorable. Lorsque celle-ci eut fini son oraison, elle s'approcha de la jeune fille qui restait à genoux et la releva avec bonté. Praskovie lui dit son nom et le but de son voyage. Elle montra son passeport et demanda l'hospitalité pour la nuit, ce qui lui fut accordé. Bientôt, entourée de plusieurs religieuses amenées par la curiosité dans l'appartement de l'abbesse, elle répondit aux interrogations multipliées qui lui furent faites et raconta les aventures pénibles de son voyage avec tant de simplicité et une éloquence si naturelle qu'elle fit répandre des larmes aux dames qui l'écoutaient et leur inspira le plus vif intérêt. On la combla de caresses et de soins, l'abbesse la logea dans son propre appartement et forma dès lors le projet de la retenir au couvent et de la compter au nombre de ses novices. Praskovie s'était proposé depuis longtemps de prendre le voile si son entreprise réussissait. On a vu précédemment que, jusqu'à son arrivée à Ekaterinbourg, elle avait cru que la ville de Kiev était sur le chemin de Pétersbourg. C'était dans cette ville qu'elle s'était promis de faire ses vœux dans la suite. Elle espérait voir, en passant, les fameuses catacombes, honorer les reliques des saints qu'elle renferme et s'arrêter une place pour l'avenir dans une des maisons religieuses de cette ville. Ayant reconnu son erreur, elle ne fit aucune difficulté de choisir le couvent de Nijni pour sa dernière retraite. Promis, elle l'a promis seulement à la supérieure. Et comme on la pressait d'en faire le vœu formel, elle refusa. « Sais-je moi-même, répondit-elle, ce que Dieu exige de moi? Je veux, je désire, sincèrement finir ici mes jours. Et si telle est la volonté de la Providence, qui pourra s'y opposer ? » Elle consentit à demeurer quelques jours à Nijni pour se reposer et pour chercher les moyens de se rendre à Moscou. Mais bientôt, elle se ressentit de ses fatigues et tomba dangereusement malade. Depuis sa chute dans la Volga, elle avait une toux profonde qui l'incommodait beaucoup. Une fièvre ardente ne tarda pas à se déclarer. Cependant, quoique les médecins eux-mêmes désespérassent de sa vie, elle n'eut jamais aucune inquiétude. « Je ne crois point, disait-elle, que mon heure soit encore venue, et j'espère que Dieu me permettra d'achever mon entreprise. » Elle se remit, en effet, quoique très lentement, et passa le reste de la belle saison au couvent. Dans l'état de faiblesse où elle était encore, elle ne pouvait continuer son voyage à pied, moins encore sur des chariots de poste. N'ayant aucun moyen de se procurer une voiture commode, elle se vit donc obligée d'attendre le traînage pour avoir la possibilité de se rendre à Pétersbourg sans éprouver la fatigue des voitures ordinaires. Elle suivit pendant ce temps les offices et la règle du couvent, avec une assiduité qui retarda peut-être son rétablissement, et elle se perfectionna dans ses études. Cette conduite acheva de lui gagner l'estime de l'abbesse et des religieuses, qui prirent pour elle la plus véritable affection, et ne doutèrent point qu'elle n'accomplît un jour sa promesse de revenir prendre le voile dans leur couvent. Enfin, lorsque les chemins d'hiver furent rétablis, elle partit pour Moscou en traîneau couvert avec des voyageurs qui faisaient la même route. L'abbesse, n'ayant pu lui faire abandonner son entreprise, lui donna une lettre de recommandation pour une de ses amies, Mademoiselle de Hesse, à Moscou, et l'assura qu'elle pourrait toujours regarder sa maison comme un refuge certain dans lequel elle serait reçue en fille chérie, quel que fût le succès de son voyage. Praskovie arriva dans cette dernière ville sans embarras et sans accident. Mademoiselle de S eut pour elle beaucoup d'égards et de soins, et la retint quelques jours pour lui chercher un compagnon de voyage jusqu'à Pétersbourg. Elle partit avec un marchand qui voyageait avec ses propres chevaux et qui demeura 20 jours en chemin. Outre les lettres de recommandation qui lui avaient été remises par les dames d'Ekaterinenbourg, elle en reçut une de Mademoiselle de S pour Madame la Princesse de T, personne respectable et très âgée. Telles étaient ses ressources lorsqu'elle arriva dans la capitale vers le milieu de février, environ 18 mois après son départ de Sibérie, avec autant de courage et d'espoir qu'elle en avait le premier jour de son voyage. Elle logea chez son conducteur sur le canal d'Ekaterinski et fut quelque temps comme perdue dans cette grande ville avant de savoir ce qu'elle devait entreprendre et comment remettre ses lettres de recommandation, ce qui lui fit perdre un temps précieux. Le marchand, occupé de son commerce, ne songeait guère à elle. Il s'était cependant chargé de trouver la demeure de la princesse de T, mais avant d'avoir accompli sa promesse, il fut obligé de partir pour Riga, laissant Praskovie sous la garde de sa femme, qui la traitait fort bien, mais sans pour cela lui être d'aucun secours pour ses projets. La lettre de Madame de G était adressée à une personne qui logeait de l'autre côté de la Neva. Comme l'adresse en était bien détaillée, Praskovie, quelques jours après le départ du marchand, se mit en chemin avec son hôtesse pour Vassili Ostrov. Mais la Neva était ébranlée, la débâcle des glaces approchait, et la police ne permettait plus le passage. Elle revint donc au logis, désolée de ce contretemps. Dans l'embarras où elle se trouvait, un des habitués de la maison du marchand lui conseilla, très mal à propos, de donner une supplique au Sénat pour obtenir la révision du procès de son père et s'offrit de trouver un écrivain pour la rédiger. Le succès de celle qu'elle avait adressée au gouverneur de Tobolsk la décida. On lui fit écrire une supplique très mal conçue et n'ayant pas la forme requise, sans lui donner la moindre notion sur la manière dont elle devait être présentée. Ce projet ne lui permit pas de remettre avec l'activité nécessaire ses lettres de recommandation qui auraient pu lui être bien plus utiles. Munie de sa supplique, notre intéressante solliciteuse se rendit un matin au Sénat, monta le grand escalier et pénétra jusque dans une des chancelleries. Mais elle se trouva fort embarrassée parmi tant de monde, ne sachant à qui s'adresser. Les secrétaires, dont elle s'approchait avec sa supplique, lui jetaient un coup d'œil et se remettaient froidement à écrire. D'autres personnes qui la rencontraient dans la chambre, au lieu de l'écouter ou de recevoir sa supplique, se détournaient d'elle comme on ferait d'un meuble ou d'une colonne qui barre le chemin. Enfin, un des invalides, garde de la chancellerie, qui traversait rapidement la salle, l'ayant rencontrée, se détourna sur la droite pour passer, tandis que Praskovi en faisait autant du même côté pour lui faire place, de manière qu'ils se heurtèrent rudement. Le vieux garde, de mauvaise humeur, lui demanda ce qu'elle voulait. La jeune fille lui présenta sa supplique en le priant de la donner au Sénat. Cet homme, la croyant une mendiante, pour toute réponse la prit par le bras et la mit à la porte. Elle n'osa plus rentrer et demeura le reste de la matinée sur l'escalier, dans l'intention de présenter sa supplique au premier sénateur qu'elle rencontrerait. Elle vit plusieurs personnes descendre de voiture et monter l'escalier, ayant des étoiles sur la poitrine. Elles avaient toute une épée, des bottes et un uniforme. Quelques-unes avaient des épaulettes. Elle pensa que c'était des officiers, des généraux, attendant toujours de voir arriver un sénateur, qui, d'après l'idée qu'elle s'en était formée, devait avoir quelque chose de particulier qui le ferait reconnaître, et elle n'offrit sa supplique à personne. Enfin, vers 3 heures après-midi, tout le monde s'écoula, et Praskovi, se voyant seule, se retira la dernière, fort étonnée d'avoir vu tant de monde au Sénat sans rencontrer un sénateur. À son retour, elle fit part de son observation à la marchande, qui eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'un sénateur était fait comme un autre homme, et que ceux qu'elle avait vus étaient précisément les sénateurs auxquels elle aurait dû remettre sa supplique. Le lendemain, à l'heure de la rentrée du Sénat, elle se trouva sur l'escalier et présenta son écrit à tous les arrivants, pour ne pas manquer les sénateurs, sur la nature desquels il lui restait encore quelques doutes. Mais personne ne voulut la recevoir. Elle vit enfin arriver un gros monsieur avec un cordon rouge, un uniforme rouge, une étoile de chaque côté de la poitrine et l'épée au côté. Oh, pour cette fois, se dit à elle-même la solliciteuse, c'est un sénateur. Oui, il n'y en a point dans le monde. Elle s'approcha de lui et lui présenta son papier en le suppliant de vouloir bien lui donner cours. Comme elle barrait le chemin, un laquais du sénateur l'écarta doucement du passage. Et son maître, croyant qu'elle demandait l'aumône, lui dit « Dieu vous bénisse !» et monta l'escalier. Praskovi retourna pendant plus de 15 jours au Sénat sans obtenir plus de succès. Souvent fatiguée de rester debout dans un escalier froid et humide, elle s'accroupissait sur une des marches pour réchauffer ses pieds glacés, cherchant dans la physionomie des passants et des employés quelques signes de compassion et de bienveillance qu'elle y aurait certainement trouvé s'ils avaient connu sa situation. Telle est la constitution de la société dans les grandes villes. La misère et l'opulence, le bonheur et l'infortune se croisent sans cesse et se rencontrent sans se voir. Ce sont deux mondes séparés qui n'ont aucune analogie, mais entre lesquels un petit nombre d'âmes compatissantes, marquées par la Providence, établissent des points rares de communication. Un jour, cependant, un des employés qu'il avait sans doute remarqué précédemment s'arrêta près d'elle, prit la supplique et sortit de sa poche un paquet de papier. La malheureuse conçut un instant d'espoir. Mais le paquet était une somme d'assignation, parmi lesquelles il en prit une de 5 roubles, la mit dans la supplique, et rendant le tout à la suppliante, rentra dans l'appartement et disparut. Praskovi, toute déconcertée, serra l'assignation et se retira. « Je suis sûr, disait-elle un jour à son hôtesse, que si un frère de Madame Milin se trouvait parmi les sénateurs, il aurait pris ma supplique sans me connaître. »